RCF.
Le 11-12 en Auvergne.
RCF Haute-Loire.
RCF Allier.
RCF Puy-de-Dôme.
Laurent Chauveau.
La flamme olympique est en Auvergne et nous en parlons sur RCF. Bienvenue en ce vendredi 21 juin. Il est tout juste 11h. Alors cette flamme olympique, Stéphane Marcelot, vous l'avez approché de près il y a peu de temps d'ailleurs.
Oui, bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la flamme olympique qui est arrivée de bonne heure à Clermont-Ferrand ce matin au siège de la caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Un passage express à l'intérieur du site de ce sponsor privilégié des Jeux. Et ensuite, la flamme a pris la direction de l'Allier où nous allons nous rendre dans quelques instants.
On revient sur cet événement dans un instant et peut-être que les auditeurs, ces fans sont surpris par la musique que nous entendons justement derrière nos voix.
Alors voilà, c'est une petite musique un petit peu, nos auditeurs ont l'habitude de l'entendre depuis septembre dernier, c'est le générique de notre émission Destin Olympique que l'on retrouvera tout à l'heure en direct à 12h10, ce sera la dernière de la saison, le jour du 21 juin, le jour du passage de cette flamme en Auvergne, on ne pouvait pas rêver mieux.
Et nous mettrons le tir à l'arc à l'honneur justement à cette occasion dans Destin Olympique. Alors vous le disiez, cette flamme est actuellement sur le département de l'Allier où nous rejoindrons nos deux reporters, Esther Dabert qui se trouve à Saint-Thior et Jérémy Coulon à Saint-Germain-des-Fossés. Et cette émission sera également l'occasion de parler des valeurs olympiques, des valeurs que véhicule le sport. Vous l'aurez compris, restez avec nous. Et avant de vous présenter nos premiers invités, petit coup d'œil sur les prévisions météo pour cet après-midi. Et cet après-midi, temps gris et nuageux sur une grande partie de l'Auvergne. Nuages porteurs localement de quelques averses et toujours localement de risques d'orage. Du côté des températures, il fera 20 degrés à Vichy, 19 degrés à Saint-Thior, où la flamme olympique se trouve en ce moment, 18 degrés à Saint-Marcel en Marcilla. Sur le Puy-de-Dôme, on prévoit 20 degrés à Issoire où des orages pourraient éclater, 22 degrés à Clermont-Ferrand, 18 degrés à Amber. Sur la Haute-Loire, 19 degrés au Puy-en-Velay. Orage sur l'Angeac avec 19 degrés également, 16 degrés à Crapaud. Sur Arzon et sur le Cantal, 20 degrés à Massiac où des éclaircies sont annoncées, 18 degrés à Aurillac ainsi qu'à Chaudzeg. Et une petite amélioration est annoncée en soirée juste pour la fête de la musique. Alors je le disais, la flamme olympique, nous en parlons tout au long de ces émissions. À nos côtés, Stéphane Marcelot, Richard Roussel, président du Cercle Pierre de Coubertin en Auvergne. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Juste à côté de vous, le père Pascal Girard, délégué diocésain à la pastorale des sports. Bonjour.
Bonjour.
Et à ma gauche, Jean-Luc Dufourneau, directeur du service client à la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Luc Dufourneau, expliquez-nous, vous avez eu la chance de porter la flamme il y a quelques minutes, combien de temps? Une demi-heure, une heure?
Oui, un peu moins d'une heure, là oui, j'ai eu cette chance de porter la flamme devant mes collègues et au sein même de mon entreprise.
Qu'est-ce qu'on ressent? Et d'ailleurs, pourquoi vous avez été choisi pour porter cette flamme?
Alors, faudrait demander à mes patrons. Hein. J'ai postulé. Il y a eu un appel. Il y a eu un appel à candidature en interne. Et les collaborateurs avaient le droit de s'inscrire. Fallait dégager certaines valeurs ou avoir certaines valeurs ou des investissements dans le sport ou dans l'associatif. J'ai été présélectionné par le directoire chez moi. Puis après, enfin par un comité interne. Et puis derrière, j'ai postulé sur le site officiel des JO. J'ai été choisi et fier d'avoir été choisi.
Alors qu'est-ce qu'on ressent justement quand on porte cette flamme et les valeurs justement que symbolise cette flamme?
Alors, c'est assez... Alors beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose... J'aurais aimé faire les Jeux Olympiques quand j'étais jeune. Quand on est sportif jeune, on a envie d'aller faire les JO. J'étais un fan de vélo, donc j'aurais aimé. Mais le fait de dire, j'ai peut-être pas fait... j'ai pas fait du tout même de carrière sportive, mais... J'ai au moins eu cet honneur de porter la flamme qui n'était pas revenue depuis, alors, hormis les Jeux d'Albertville en 92, mais qui n'était pas revenue en France avec l'athlétisme depuis 100 ans. Donc ça, c'était un vrai bonheur et une vraie fierté.
Alors Stéphane, vous n'avez pas eu la chance de porter cette flamme. Par contre,
je vous ai ramené un petit bracelet quand même.
L'approcher de près.
Bon, racontez-nous un petit peu. Effectivement. Alors Jean-Luc, je vous ai vu, vous étiez tout près de moi tout à l'heure sur ce podium principal dans la cour de la Caisse d'Épargne à Clermont-Ferrand. Alors il y avait des gouttes de pluie, malheureusement, le ciel qui a mis sa menace à exécution. Mais il n'y avait pas que des gouttes de pluie. J'ai vu quand même derrière vos lunettes quelques gouttes d'eau, quelques larmes d'émotion quand même. C'était un passage éclair, mais en même temps, vous avez été rapidement pris par l'émotion, vous aussi.
Alors, passage éclair, c'est 6 minutes, on a 6 minutes. Alors, ça paraît long, c'est très court aussi. J'ai bien profité. Donc, oui, il y avait le côté émotionnel. Et puis, je pensais à la Vichy au départ, où je connaissais personne. Je me suis dit, ça sera plus discret. Et puis là, en fait, j'étais que devant mes collègues. Donc, et ma famille, parce que mes proches sont venus. Et oui, l'émotion était là.
Donc, pour bien expliquer à nos auditeurs, ce matin, ce sont trois porteurs hein, de la Caisse d'épargne qui ont eu la chance un petit peu de se relayer, de porter cette flamme olympique. Hein. Le bâtiment de la Caisse d'épargne à Clermont-Ferrand, c'est plusieurs étages. Hein, la flamme olympique hein, qui a commencé son cheminement par le haut, hein, sur la terrasse du bâtiment. Alors, on avait sur place des partenaires, des clients de la banque, mais aussi des élus de la ville de Clermont. On a pu reconnaître Olivier Bianchi, le maire de Clermont, Madame Rougerie, son adjointe au sport. Et puis, ben, petit à petit, la flamme qui a dévalé les marches de ce grand bâtiment. Et vous étiez ben, le dernier relayeur hein, pour l'amener dans la course, cette flamme.
Tout à fait. Dernier relayeur et la chance de marcher sur le parking, en fait, au milieu de mes collègues.
Voilà, c'est un moment, je discutais aussi avec certains de vos collègues. Ça fait maintenant plusieurs jours que ben, cet événement, vous le préparez aussi. Je crois que vous avez eu deux jours aussi, il y a quelques temps, de fédération, tous ensemble, où vous êtes tous retrouvés autour de camps, d'activités sportives.
Tout à fait. Il y a 15 jours, on avait les Jeux CEPAL, en fait, au lac Chambon. Et on a passé un super moment entre collègues.
D'autant que vous avez eu du beau temps, il faut le dire aussi, c'était pas gagné.
Et on est passé à travers les gouttes, on a vraiment eu de la chance et on a passé tous un très très bon moment. Et bon, oui, le côté sportif, il y avait quelques petites épreuves sportives, mais c'est le côté de se retrouver tous ensemble et de passer un excellent moment et parler d'autres choses et d'être un peu au boulot sans être au boulot non plus.
Alors, il y a une question que je vous pose, moi aussi, Jean-Luc, c'est que vous avez mis ce matin votre pierre à l'édifice, mais savez-vous, vous êtes le combien de relayeurs là, depuis le début, depuis l'arrivée de la flamme à Marseille?
Alors, comme tous les relayeurs, on a un petit souvenir qui est un morceau de la torche. Et je dois être le 3741e relayeur, 3147, pardon. Sur les 10 000 qui auront la chance d'avoir ce cadeau offert par tous les relayeurs avec la tenue aussi qui nous est donnée pour porter cette flamme.
Où est-ce que vous allez le mettre? Vous savez, peut-être ça va être une discussion avec votre femme et votre fille ici présents.
Alors, je pense qu'il va voyager un petit peu là parce que mes collègues vont demander à le voir, je pense. Je vais leur en faire profiter parce que certains ont postulé et n'ont pas eu la chance que moi j'ai eue. Donc, je vais vraiment prendre le temps de leur montrer qu'ils puissent le regarder. Et puis après, on trouvera bien un endroit à le stocker qui soit assez visible parce que ça reste quelque chose d'exceptionnel.
Richard Roussel, je rappelle que vous êtes le président du Cercle Pierre de Coubertin en Auvergne. Quelle est la signification justement de cette flamme? Pourquoi on a choisi la flamme, le feu justement pour, comme symbole de ces JO?
Parce que tout d'abord, la flamme part d'Olympie. Donc, après, on reviendra un petit peu sur l'histoire au niveau du relais de la flamme, il y a le relayeur, tel qu'on a connu aujourd'hui, il y a le dernier relayeur, qui a une importance, et il y a l'embrasement de la flamme. Donc là, on revient donc aux vertus originales de Coubertin. Donc la flamme est partie, le feu, parce que ça symbolise, je dirais, la puissance, entre guillemets, et après, les relais font en sorte qu'on travaille sur une communion entre les personnes, une fraternité. C'est aussi le symbole du passage de relais entre les personnes. Voilà. Et donc la flamme traverse, sauf en 2004 et 2008, normalement, la flamme part d'Olympie et vient dans le pays hôte. Mais en 2004 et 2008, il y a eu un passage international. Et ça s'est assez mal passé, puisque là, il y a eu des mouvements de contestation sur la présence de la Chine au Tibet, et ainsi de suite. Donc on a vite arrêté, et on a recentré, je dirais, les débats autour du pays hôte. C'est pour ça que la flamme est partie aux Antilles, mais elle est restée dans la République française. Voilà.
Alors Pierre de Coubertin avait à cœur de rendre le sport populaire, il a réussi.
C'est vaste question parce que là si on se fie au nombre de participants et au nombre de pays participants, on peut parler d'un sport populaire. C'est le sport le plus regardé au monde au moment de cet événement. Après, il va pas falloir éluder certains problèmes hein. Il y a des pays qui vont amener des athlètes qui, on va parler franchement de la Russie, qui sont dopés. Il y a des pays, la Russie est en guerre. Il y a d'autres pays qui sont en guerre. Il y a les droits de l'homme.
La politique n'est jamais loin du sport.
Elle est toujours là. elle est toujours là. Hein. En 1924, les pays qui ont combattu, je dirais, la France et les Alliés ont été écartés. Donc la politique est toujours au niveau des Jeux Olympiques. Et voilà. Après, si, oui, ça reste quand même un événement populaire parce que c'est l'événement le plus partagé au monde. Il y a trois événements, c'est les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde et puis le Tour de France.
Alors, Père Pascal Girard, je rappelle que vous êtes délégué diocésain à la pastorale du sport. On peut vraiment dire que les valeurs du sport rassemblent. On en a eu un exemple sur le diocèse de Clermont, fin mai, avec l'organisation du raid fraternité. Quel est l'objectif, justement, de ce raid fraternité? Peut-être expliquer le principe.
Alors, le raid fraternité, donc, on a eu la 14e édition, donc, le 28 mai. Donc, l'idée, c'était de rassembler des collégiens et de leur faire vivre le sport peut-être un petit peu autrement. À la fois, bon, c'est important de faire de la compétition, mais aussi de leur montrer quelles sont les vertus que l'on peut vivre et quel est le lien entre le sport et la foi. En disant, ben voilà, que on peut faire de la compétition, on peut rechercher à être le meilleur, mais tout en respectant les autres. Donc, dans chaque épreuve sportive, et puis il y avait aussi, entre guillemets, des épreuves spirituelles, de les amener à bien sûr, être les meilleurs, mais en étant attentifs à leurs partenaires, en respectant l'adversaire, en étant à l'écoute de ceux qui les arbitraient, enfin, etc. Donc c'était vraiment de les amener à se concentrer pour bien vivre ces valeurs et de se dire, bah voilà, l'évangile peut aussi, quand on est chrétien, ça peut aussi nous aider. Et l'exemple de nombreux sportifs de haut niveau chrétiens qui témoignent de leur foi a pu être aussi l'occasion de les amener à réfléchir.
Alors nous disions, la flamme olympique est aujourd'hui en Auvergne. Et hier, justement, à l'occasion du passage de cette flamme olympique, vous avez souhaité mettre en place une veillée autour du thème de la paix, une veillée pour la paix. Pour quelle raison, justement? Tout à l'heure, on parlait de politique, on parlait de géopolitique.
Alors, c'est une proposition au niveau national qui est relayée au niveau de l'Église de France avec la proposition Oligem. Et notamment, l'idée, c'était de se dire que partout où passait la flamme, que la veille, on puisse avoir un temps de prière pour justement prier pour tous ceux qui allaient venir au jeu, que ça soit les athlètes, que ça soit ceux qui les soutiennent, ceux qui les entraînent, mais aussi tous les spectateurs. Et donc c'était de dire, bah voilà, notre pierre à l'édifice, c'est de dire, bah nous on prie pour eux, on prie pour la paix, on prie pour que tout se passe bien.
Je reviens vers vous, Jean-Luc Dufourneau. Donc vous êtes responsable clientèle à la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. On ne l'a pas encore signalé, mais justement, la CEPAL soutient 7 athlètes auvergnats pour ces JO.
Tout à fait, dont beaucoup sont déjà qualifiés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Dont
que ce soit pour les Jeux olympiques, mais aussi paralympiques.
Paralympiques, exactement. Donc il y a Léane Morceau, entre autres, de Limoges, qui n'est pas à Limoges au départ, elle est plutôt Poitevine, mais... habite Limoges et s'entraîne à Limoges, donc va représenter. Elle a eu sa qualification hier, donc ça c'est la super bonne nouvelle. Puis on a Laetitia Guapo, on a Jordan Sardou,
3-3, voilà, en PTT. Voilà.
Donc on a de super athlètes.
Et puis on a une nouvelle discipline cette année lors des JO, c'est le breakdance.
Le breakdance. Oui,
et là vous soutenez aussi de talents.
On soutient aussi. Alors j'y connais un peu moins. Il y a Nasty et l'autre, je sais plus. C'est pas mon truc, mais bon.
C'est Lucky et Nasty.
Lucky et Nasty, voilà. Voilà. Donc c'est super impressionnant. C'est très athlétique et moi je suis plutôt dans les sports traditionnels, le vélo, alors l'athlétisme pour moi bien sûr.
Alors, est-ce que vous... Pardon, allez-y, Stéphane.
Le fait d'avoir porté cette flamme, Jean-Luc, forcément, vous allez suivre ces Jeux d'un œil différent maintenant. Il y a une sorte de, un petit peu de responsabilité, un peu?
Non, mais je vais les suivre, par contre. Je vais surtout suivre les Français et tous les sports. J'ai pas de... Même si j'ai des sports préférés, je sais qu'il y a des Français qui vont concourir pour essayer d'avoir une médaille. Et entendre la Marseillaise, l'émotion, elle vient aussi, parce que... Ça reste quelque chose d'exceptionnel et des choses qu'on aurait aimé vivre, que moi j'aurais aimé vivre. Mais...
Et peut-être qu'un athlète auvergnat allumera cette flamme, hein, qui sait, hein,
voilà. On sait pas.
On sait que Renaud Lavillenie et Laetitia Guapo, notamment, sont en lice.
Tout à fait.
La bataille et sera, pour, la concurrence
pour,
sera.
Pour être porte-drapeau aussi, en plus. Laetitia Guapo aussi en lice pour être porte-drapeau. Donc, je vais les surveiller de près. Puis je vais regarder surtout ceux qui sont, bien sûr, accompagnés par la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin, bien sûr.
Vous serez sur Paris dans quelques semaines?
Non.
Non, derrière la télé, pour le soutenir?
Plutôt la télé, je vais éviter Paris, là j'y monte assez souvent pour le boulot.
Richard Roussel, vous aussi, est-ce que vous serez sur Paris? Est-ce que vous...
Oui. Moi, je serai, j'y monte le 26 pour être La journée du 27 avec le rugby à 7 et je terminerai, donc je reste toute la semaine, alors bon, je fais quasiment tous les sports collectifs, l'athlétisme, la natation, la boxe, le judo avec Thierry Riner et je termine par le volleyball de plage sous la tour Eiffel. Donc beau programme et une belle diversité et donc... l'athlétisme aussi, donc voilà, j'ai jamais vu, et la boxe, j'ai jamais vu une épreuve de 100 mètres, je vais voir les éliminatoires du 100 mètres, c'est pareil que c'est magique. Voilà.
Vous allez nous ramener plein de médailles là.
Je vais ramener beaucoup de souvenirs, je pense, beaucoup oui, de photos, et j'espère aussi voir, je devrais voir les qualifications de Léon Marchand dont on parle tant. Ces derniers moments, voilà.
Le phénomène au niveau de la natation. Voilà, ouais. Et vous, Père Pascal Girard, est-ce que vous allez suivre de près justement ces JO durant l'été ?
Alors effectivement, je vais les suivre de près puisque je suis aussi au niveau de la Conférence des évêques de France dans la commission Église et Sport et donc j'assure entre guillemets tout l'aspect communication, notamment avec le site églisesport.fr. Donc effectivement, je vais être, je vais pas dire 24 heures sur 24, mais j'ai y passé pas mal de temps pour suivre, pour relayer toutes les un petit peu tous les résultats, mais aussi toutes les propositions qui sont faites au niveau de l'Église.
On se rend bien compte que les Jeux Olympiques rassemblent, les Jeux Olympiques fédèrent. Alors, je le disais au moment où nous parlons, la flamme olympique est sur le département de l'Allier, à Ceinture très précisément, Ceinture où nous retrouverons dans quelques minutes Esther Dabert, quelques minutes que nous passons avec Emma Hoé, Chute Libre.
Ce matin au réveil, j'ai encore trop sommeil. C'était peut-être un mauvais rêve, mais je voudrais y rester. Y'a comme un truc pas clair, mais pas de quoi s'emballer. On sait tous que j'ai bien mieux à faire. Je vais le vivre, ça m'évite les problèmes. J'ai pas envie, c'est toujours les mêmes. Je vais le me dit qui m'a envahi, je suis en chute libre. Je vais le vivre, ça m'évite les problèmes. J'ai pas envie, c'est toujours les mêmes. Je vais le vivre, puis quelque chose me dit qui m'a envahi, je suis en chute libre. Et parfois j'ai l'impression que mes sentiments me trompent. J'ose rien m'avouer, non je veux pas jouer. Mais maintenant je suis touchée et je sais plus quoi penser. Je préfère les mystères, bien trop solitaire. Je vais le vivre, ça m'évite les problèmes. J'ai pas envie.
11h passées de 18 minutes, vous êtes bien à l'écoute des programmes de RCF en Auvergne. L'Auvergne qui accueille la flamme olympique et elle brille cette flamme tout au long de cette émission. Et nous allons rejoindre maintenant Esther Dabert qui se trouve à Ceinture. Bonjour Esther.
Bonjour Laurent.
Alors déjà, la question qu'on se pose autour de cette table, il fait quel temps à Ceinture pour accueillir la flamme olympique ? Tout le monde sourit.
Bah alors là, c'est la question difficile parce que actuellement il fait plutôt bon, mais c'est vrai que toute la matinée a été assez incertaine. On a eu de la bruine en tout début de matinée vers 9h. Alors on pensait pouvoir éviter le mauvais temps, malheureusement ça n'a pas été le cas. On a eu droit à de très très grosses averses. On a rapidement sorti les gros parapluies et les kawaii. Alors évidemment, tous les spectateurs que j'ai rencontrés se sont dit très déçus, mais pas les services de sécurité et de secours, comme par exemple Jonathan et Thibault, que j'ai rencontrés, qui travaillent pour la Croix-Rouge et qui pensent que justement cette météo un peu plus incertaine pourrait permettre d'éviter par exemple les coups de chaud, même si évidemment il faut être un peu plus vigilant à tout ce qui est risque de chute. Alors, pour éviter la pluie, le marché couvert de Ceinture a été ouvert. Donc, c'est là que se sont passés tous les spectacles ce matin. On a une buvette qui a été mise en place pour se chauffer avec un petit café. Il y a aussi une scène sur laquelle de très nombreux musiciens, des groupes se sont eux aussi relayés, si vous me permettez l'expression. Alors, on est passé vraiment de Joe and Jet à Damien Saez. Au niveau musical, il y en avait vraiment pour tout le monde. On a aussi vu une troupe de théâtre qui a présenté un spectacle pour des origines antiques des lions, beaucoup de clubs de danse également, une exposition de dessin avec les plus petits. Bref, globalement, toutes les associations de la ville ont participé à cet événement qui a été très, très rassembleur. Alors, on a également eu des clubs qui se sont représenté comme le club de cyclo-randonneurs qui, à défaut de venir avec leur vélo, sont venus en combinaison. Impossible de les manquer. Ils étaient en orange, en bleu et en jaune et ils ont partagé leur bonne humeur à tout le monde. On va dire que dès 9h30, il y avait déjà une centaine de personnes à peu près. C'était le cas de Liliane et Eliane, qui sont donc deux amis que j'ai rencontrés et qui voulaient bien aller à Vichy, mais qui avaient un peu trop peur, on va dire, de ne pas trouver de place pour garer. C'est vrai qu'à Saint-Cheur, on avait un peu moins ce problème. Finalement, toutes les personnes à qui j'ai parlé habitaient globalement aux alentours de Saint-Cheur, dans les environs, sauf Valérie et David, qui sont pour leur part venus depuis Clermont, départ à 8h ce matin, après avoir déposé leur fille à l'école. Donc vous voyez des profils un petit peu variés.
Et alors Esther, une question qu'on se pose quand même, vous avez pu l'approcher de près, vous avez pu l'apercevoir, cette flamme olympique ?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, je dirais facilement 300 à 400 personnes. La flamme est passée devant la mairie, d'ailleurs, elle a été accueillie avec le soleil pendant un bref instant. On a entendu beaucoup d'enfants, surtout qui ont crié à plein poumon leur amour pour son passage. Et là, elle est arrivée à l'arrivée donc de Saint-Fior. On a pu voir les relayeurs qui sont passés sur scène pour avoir droit à une petite présentation individuelle. Je sais que du côté des spectateurs, beaucoup ont prévu d'ailleurs de se rendre à Vichy cet après-midi pour espérer l'avoir une deuxième fois.
Eh bien Esther, on en profite, on vous laisse profiter pleinement du spectacle, de ce passage de la flamme olympique. Et d'ailleurs, cette flamme va poursuivre son parcours. On la retrouvera un peu plus tard dans ce programme du côté de Saint-Germain-des-Fossés. Merci beaucoup et belle journée à vous.
Merci beaucoup Laurent.
Richard Roussel, je rappelle que vous êtes le président du cercle Pierre de Coubertin en Auvergne. Alors les JO sont symbolisés par cette flamme, cette torche dont vous avez parlé tout à l'heure, mais également par des anneaux, 5 anneaux de couleurs différentes. Que signifient justement ces anneaux? Quelle est la symbolique de ces anneaux?
Alors il y a deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que on a les 5 continents représentés avec les anneaux. Et le deuxième point de vue, alors après, que je partagerai peut-être un peu plus, dans l'idée de Coubertin, c'est qu'on a ces cinq couleurs sont représentées sur tous les drapeaux du monde, à l'époque, bien évidemment. Le drapeau date de 1900, enfin, il a été élaboré en 1913 par Coubertin lui-même et présenté en 1914, bien évidemment, pour le rétablissement le 20e anniversaire du rétablissement des Jeux Olympiques. Voilà. Donc, on peut penser que ces anneaux, alors ils sont entrelacés, on parlait de fraternité, ça symbolise certainement la fraternité, mais les couleurs, ce sont les 5 couleurs que l'on retrouve dans tous les drapeaux de l'époque.
Et on évoquait précédemment avec vous, Père Pascal Girard, ce raid fraternité. Et justement, pour vous, en quoi c'est, parce que vous êtes prêtre, mais vous êtes également sportif, pour vous, en quoi c'est important, justement, la pratique d'une activité sportive, d'une activité physique?
On le rappelle, hein, entre guillemets, au niveau de la foi chrétienne, c'est qu'on est un tout, on n'est pas qu'un pur esprit et que tout est lié, donc que ce soit le corps, le cœur, l'âme. Et donc c'est important si on le sait, quand on a mal quelque part, tout notre être le ressent. Et donc être en bonne santé, et on nous le fait suffisamment référence, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire, voilà, c'est important aussi de prendre soin de soi. Et quand on prend soin de soi, on est en meilleure santé, on se sent mieux, on est mieux dans nos relations les uns avec les autres. Et donc, c'est important d'être attentif à ça.
Alors, on va quitter quelques minutes cette flamme olympique, mais pas le département de l'Allier. Mais on retrouve d'ailleurs Esther Dabert pour notre feuilleton de cette semaine 5 jours en Auvergne. Et vous nous invitez depuis lundi, Esther, à découvrir les métiers rattachés au Sictum Nord-Allier qui est en charge la collecte de nos déchets. Et je pense que durant les Jeux Olympiques, il y aura de nombreux déchets qu'il va falloir trier, qu'il va falloir justement, il va falloir faire attention à ce niveau-là. Et aujourd'hui, vous êtes en compagnie de Thierry Godet, qui est le directeur général et qui se penche sur l'avenir du secteur.
Bonjour Thierry Godet.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les missions du Sictum?
Alors le Sictum Nord-Allier, rapidement, c'est un territoire de 72 communes pour 83 000 habitants avec les compétences principales collecte et traitement des déchets. On a aussi des déchetteries et on a une grosse partie aussi prévention des déchets. L'objectif, c'est pas forcément de collecter le déchet, mais de ne pas le collecter justement, d'éviter la production d'un déchet.
Et alors justement, comment on fait pour pousser la population à mieux trier?
Alors, mieux trier, c'est lui apporter les moyens de trier au plus près de chez lui. Alors, soit dans ce qu'on appelle dans notre jargon, soit le porte-à-porte, soit le point d'apport volontaire, où la personne fait la démarche d'apporter elle-même son déchet dans une colonne. C'est aussi beaucoup de communication au travers des moyens de communication qui sont les notes, les sites internet, les réseaux sociaux, et aussi profiter des fois des campagnes publicitaires nationales, comme il y a pu y avoir depuis le début de l'année, sur la gestion du biodéchet.
Et vous avez donc mené une étude d'optimisation?
Tout à fait. Les élus ont fait le constat que nous avions un mode de collecte qui était trop compliqué pour notre territoire et ont sollicité un bureau d'études pour faire une étude d'optimisation de nos collectes, voir comment nous étions structurés actuellement et comment on pouvait se structurer dans un avenir plus ou moins proche pour être plus productif.
Quand vous dites que l'organisation est trop compliquée, concrètement, ça veut dire quoi?
Alors, ça veut dire qu'actuellement, sur nos 72 communes, nous avons des communes qui sont collectées en porte-à-porte pour les ordures ménagères ou pour la collecte sélective, c'est le fameux sac jaune. D'autres qui sont collectées en point d'apport volontaire, d'autres en bac de regroupement. Et il n'y a pas d'unicité, d'uniformité sur notre territoire. Donc, l'objectif, c'est de, grosso modo, de diviser notre territoire en deux, ce qu'on va appeler une partie urbaine, qui va être Moulins, Isère, Avermes, et le reste du territoire qu'on va considérer plutôt comme une dominante rurale. Notre territoire, c'est 72 communes, je le rappelle, mais c'est 37 habitants au kilomètre carré en moyenne. C'est-à-dire qu'on a des endroits où on a des pics de population avec une densité de 2000 habitants approximativement, sur Moulins principalement, et d'autres parties de notre territoire où il y a un habitant au kilomètre carré, donc ce qui fait parfois beaucoup de kilomètres pour aller collecter peu de déchets.
Et les solutions, ça pourrait être quoi? Donc des points de collecte peut-être dans les plus petits villages?
Difficile de vous donner les solutions définitives puisque pour l'instant les élus ne se sont pas prononcés sur le choix du scénario. L'un des choix qui est le plus probable, c'est que l'on dote en bac jaune l'ensemble des foyers du système noralier de manière à pouvoir aller collecter plus ce qu'on appelle la collecte sélective dans le jargon, c'est-à-dire les emballages, les plastiques, les papiers, parce que le coût de la tonne triée en collecte sélective est beaucoup moins élevé que le coût de la tonne enfouie ou incinérée. C'est grosso modo de l'ordre de 12 fois moins. Donc plus on va aller chercher du jaune, moins ça nous coûtera en incinération et en enfouissement. Donc voilà, l'une des solutions, c'est de faciliter le geste de tri pour l'usager, de manière à ce qu'il trie plus et jette moins dans le sac noir pour qu'on envoie ça en incinération à l'usine qui est située à Bailly actuellement.
Vous qui semblez assez au contact avec la population, est-ce que vous diriez qu'il y a encore des clichés sur le métier d'agent dans la gestion du déchet?
Je vais faire un petit parallèle avec il y a 4 ans, période Covid. Les agents du système noralier, les agents de collecte, étaient des rares qui avaient encore le droit de travailler. Et je me souviens qu'à cette période-là, ils étaient applaudis au même titre que les infirmiers, les infirmières, enfin toute cette population dont on parlait de mission essentielle à l'époque. Et on avait une grosse considération pour ces métiers. Je trouve que malheureusement, depuis quelques temps, il y a moins de considération justement pour ce métier que je considère comme toujours étant essentiel. Pour vous, en fait, c'est transparent. Le soir, vous sortez votre sac. Le lendemain matin, il a disparu comme par magie. Non, ce n'est pas de la magie derrière, c'est une organisation. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui travaillent dur. Donc il faut avoir cette considération envers ces agents. C'est la même chose aussi pour les gardiens de déchetterie, où on sent beaucoup d'irrespect ou d'impolitesse ou de manque de courtoisie envers ce métier, qui est un métier très difficile, le gardien de déchetterie. Donc j'aimerais des fois que l'usager soit un peu plus respectueux de mes collègues.
C'est un secteur qui change beaucoup. Est-ce que vous savez à quoi va ressembler l'avenir? Est-ce qu'on est sur une plus grande automatisation, une utilisation de l'IA par exemple?
Moi personnellement, je suis dans le déchet depuis 2015, c'est-à-dire moins de 10 ans. Et en 10 ans, j'ai déjà vu une énorme évolution dans le monde du déchet. Et effectivement, on se rend compte que c'est un secteur qui va encore énormément évoluer dans les années à venir, avec déjà effectivement l'intégration de l'intelligence artificielle, où on aura de l'intelligence artificielle qui viendra aider, parce qu'il faudra encore le geste humain pour aider le geste de tri.
Merci Thierry Godet.
Je vous en prie. Bonne journée à vous.
Et merci à vous Esther Dabert pour ce reportage autour de nos déchets. Je le disais précédemment, on peut facilement imaginer qu'au regard des milliers, des millions de personnes attendues lors des JO de Paris, la quantité de déchets va fortement augmenter, d'où l'intérêt de trier et également de limiter les emballages.
Qu'est-ce qui est petit, vert, vital pour la santé et qui existe maintenant aussi en appli? Non, c'est votre carte vitale. L'application Carte Vitale vous permet d'avoir votre carte toujours sur vous, toujours à jour et toujours aussi sécurisée. Téléchargez-la dès maintenant. La Carte Vitale. Vitale aussi en appli.
L'assurance maladie.
Voyage musical à travers le monde. Une série de 4 concerts proposés par la chorale Colcanto de Toulon-sur-Allier et Creusier-le-Neuf. Les 50 choristes et les 13 musiciens interpréteront des œuvres universelles de Saint-Saëns, Johnson, Pachelbel et bien d'autres. Rendez-vous ce dimanche 23 juin à 16h à l'église Saint-Pierre de Moulins.
Bienvenue sur RCF en Auvergne jusqu'à 12h30, émission spéciale Flamme Olympique pour le passage de la Flamme Olympique en Auvergne. Et à midi, nous aurons le journal qui nous sera présenté par Pierre Godin. Bonjour Pierre.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Alors en amont de ce journal, vous pouvez nous donner les grands titres?
Eh bien oui, aujourd'hui, focus sur les structures qui prennent en charge des addictions en Haute-Loire. Un nouveau prêtre pour le diocèse de Clermont, il sera ordonné dimanche qui vient à 15h. Et puis, à Cusset, les plus jeunes participent à leurs propres Olympiades dans cette journée de relais de la flamme dans le sud de l'Allier.
Voilà, j'espère que vous êtes en survêtement aujourd'hui, Pierre.
Tout à fait, ou pas. Je crois que je vais aller le chercher bientôt.
Voilà, ben vous avez encore une demi-heure pour enfiler votre survêtement. On vous retrouve à midi, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Laurent.
Alors, je le disais, la flamme olympique est en Auvergne. Ce vendredi, sur le département de l'Allier, d'ailleurs, au moment où nous parlons. Nous en parlions précédemment avec vous, Jean-Luc Dufourneau. Vous avez eu l'occasion de porter cette flamme ce matin au sein des locaux de la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Et tout à l'heure, vous étiez sur votre portable. Il y a plein de souvenirs, il y a plein d'amis déjà qui vous envoient des messages. Et puis, vous avez cet anneau souvenir, mais également, vous aurez cette photo qui sera ancrée pour longtemps en vous.
Oui, alors j'ai plein de messages ce matin d'encouragement de collègues, hein, de différents collègues, dont même de ceux qui sont en vacances. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et puis là, c'est un collègue qui m'a pris en photo juste avant qu'on allume la torche. Donc un moment un peu particulier. Mais oui, il va y avoir plein de souvenirs, plus toutes les photos qu'ont fait les collègues, je pense, qui vont m'envoyer, qui étaient présents sur le parcours.
Le tout en tenue, officielle.
De tout en tenue officielle, tout à fait.
Vous pouvez la garder ou alors on vous la reprend?
Non, je l'ai dans mon sac.
Voilà, avec les anneaux.
Elle est dans mon sac, elle est offerte.
Richard Roussel, je rappelle que vous êtes le président du cercle Pierre de Coubertin en Auvergne. Peut-être quelques mots justement sur les origines de ce comité Pierre de Coubertin.
Alors le comité Pierre de Coubertin Auvergne fait partie du... Alors nous, on est le cercle Pierre de Coubertin.
Le cercle,
voilà,
de Coubertin.
Fait partie du comité Pierre de Coubertin, ben qui est un comité qui date de 1952, je crois, et qui est là pour mettre en avant, je dirais, la pensée, l'œuvre du baron, et plus particulièrement de tout ce qui se passe autour des Jeux Olympiques passés et à venir. Voilà. Et donc nous, plus particulièrement en Auvergne, on essaye de promouvoir, je dirais, l'idée olympique à travers notamment la jeunesse, à travers des interventions dans le milieu scolaire. On a eu fait école primaire, collège et lycée. Voilà. Et au titre de notre association, nous faisons partie de la classe Alice Mia Pierre de Coubertin, qui a été créée pour des élèves qui sont en terminale actuellement, et qui a été créée au moment où ils étaient en cinquième, où chaque année, ils sont réunis, notamment sur Vichy. On fait la... Je dirais le lien avec ce qui se passe là-bas, où c'est une terre de Jeux olympiques. Et on essaye de faire venir des anciens sportifs, on essaye de faire comprendre l'histoire olympique, et tout en leur faisant pratiquer des activités sportives et paralympiques. Voilà.
Alors Pierre de Coubertin avait pour ambition justement d'amener notamment l'activité physique et le sport à l'école. Est-ce que vous pensez qu'on fait suffisamment de sport à l'école?
Non, soyons objectifs. Les dernières mesures, c'est de donner une demi-heure de plus d'éducation physique à l'école primaire. C'est pas concevable. Déjà, il faudrait que les enseignants de l'école primaire soient mieux formés. ce qui se passe en collège, c'est un peu plus conséquent, mais moi qui interviens, qui suis prof de PS en lycée, deux heures par semaine, quand vous prenez le temps de déplacement, d'habillage, de déshabillage sur les installations, vous pratiquez très peu. Voilà, donc je dirais que on a perdu il y a quelques années, dans les années 60, on n'était pas loin de 5 heures d'éducation physique. Même en lycée, là, on n'y est plus, donc bon, c'est complètement illusoire de dire que on veut faire en sorte que la pratique physique.
Il y a aussi le défi de la lutte contre les inégalités territoriales des écoles en milieu urbain qui peuvent avoir plus facilement accès aux équipements à proximité.
Alors effectivement, il y a des lieux de pratique, mais quand vous êtes en région parisienne, vous devez vous déplacer, c'est-à-dire vous perdez un temps et souvent, moi j'ai des collègues qui se déplacent en métro. Donc, vous voyez la problématique, il faut l'élargir, c'est-à-dire que il y a peut-être moins, je dirais, de gymnases, de terrains, je dirais dans la ruralité, mais vous y avez accès quasiment directement. Donc voilà. C'est une problématique très compliquée, hein, je dirais la pratique de l'éducation physique et du sport à l'école. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. C'est pas là. Il y a eu d'ailleurs des prises de parole dans le journal L'Équipe des sportifs. C'est pas à l'école que l'on devient champion. Ça reste dans le club. Voilà.
Père Pascal Girard, là, je m'adresse aux sportifs que vous êtes. On entend dire que la France n'est pas un pays de culture sportive. Vous en pensez quoi ?
Je suis d'accord parce que en fait, ce qui vient d'être dit est très réel. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que c'est exceptionnel tous les résultats que l'on peut avoir vu le peu de pratique que l'on a effectivement dans nos écoles. C'est effectivement par l'intermédiaire des clubs. Et j'aurais tendance à dire, si on avait une pratique sportive comme les États-Unis, je pense qu'on serait le premier pays au monde en matière de résultats, quand on voit tous les résultats qu'on arrive à faire. Parce que effectivement, souvent on le voit entre guillemets à l'école, mais on le voit au niveau politique ou ailleurs. Le sport, c'est entre guillemets le dernier des wagons. C'est entre guillemets, on a eu aussi ça un petit peu dans l'Église, c'est-à-dire le corps, c'est pas bien. L'important, c'est le cerveau, c'est l'intellectuel. Alors que tout est au même niveau. Quand on prend, par exemple, les Jeux olympiques au départ, il n'y avait pas que des épreuves physiques. C'était un petit peu... Pierre de Coubertin a été champion olympique.
1912, c'est l'année de la création des Jeux olympiques culturels, on va dire. Il y avait des épreuves d'art.
Voilà, mais c'est vrai qu'on a alors c'est vrai que maintenant de plus en plus en France le sport se développe, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pratiquants, mais il y a tout le problème des inégalités, c'est-à-dire que il y a dans certaines familles on n'a pas les moyens d'inscrire un enfant dans un club. Et c'est pour ça que c'est un enjeu crucial que on puisse développer le sport dans le primaire et après collège et lycée.
Alors, la flamme olympique, cette flamme olympique, au moment où nous nous parlons, passe de main en main. Elle se trouve sur le département de l'Allier où nous rejoignons Christine Doron et Karine Drouin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes salarié au sein de l'association Profession Sport et Loisirs Auvergne. Alors, toutes deux, est-ce que vous sentez réellement un engouement autour des JO ? Est-ce qu'on vous en parle ?
Pas spécialement.
Non, spécialement.
Non, on fait de la formation au niveau des jeunes et non, même eux n'en parlent pas forcément.
Pourtant, c'est un bon levier pour favoriser justement la pratique sportive d'une façon générale.
Oui, ça reste un levier, mais après, ne serait-ce qu'il faudrait aussi communiquer un peu plus au niveau des jeunes, parce que je vois, là, on met en place des stages d'été, là, justement, autour des Jeux Olympiques. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos, enfin, nous, personnellement, hein, parce qu'on attend aussi, malheureusement, des subventions pour pouvoir mettre ça en place. Mais ça tarde à arriver, les subventions, et là, on n'a pas pu communiquer, justement, autour des Jeux Olympiques encore.
Alors, Profession Sport et Loisirs Auvergne œuvre sur deux départements, me semble-t-il, celui de l'Allier et également celui du Puy-de-Dôme. Vous pouvez nous expliquer ce que propose d'une façon générale, d'une façon globale, votre association ?
Eh bien, c'est une association, c'est un organisme de formation donc qui propose un BPGEPS, activité physique pour tous. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont en apprentissage dans des structures et qui viennent à PSL pour tout ce qui est un petit peu théorie. Et ensuite, bah, ils passent leur diplôme et c'est pour devenir, on va dire, éducateur sportif. Mais après, ils peuvent aller plus loin si, bien sûr, ils le souhaitent.
Karine Drouin, j'ai cru comprendre que vous avez pour passion l'escrime. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce sport? Et vous avez découvert ce sport à quelle occasion?
Alors, moi, j'ai fait de l'escrime à partir de l'âge de 6 ans, dans un club en Seine-et-Marne. Et donc, ça m'a plu. Donc, j'ai fait 20 ans d'escrime. J'ai été championne de France au Floret et vice-championne de France militaire à l'épée. Ensuite, ben, c'est une passion que j'ai et à l'heure d'aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est la transmettre à d'autres, à des jeunes, que ce soit... Alors moi, je vais dans les écoles par le biais de l'UCEP, donc avec les enseignants. J'y vais pour montrer aux enseignants des séances pour qu'eux, après, ils puissent mettre en place avec leurs élèves des séances sur à peu près 3 mois. Ensuite, j'interviens sur le BPJEPS, Activité physique pour tous, où là, je suis formatrice à PSL. Alors là, ce n'est pas du tout le même rôle. C'est pour leur donner les bases de l'escrime et qu'eux, ensuite, puissent les retransmettre dans les centres de loisirs, les écoles, dans leurs structures. Avec PSL, j'ai fait aussi l'étape. Tout ce qui est, c'est du temps périscolaire, activité périscolaire, et le passe-sport qui se fait sur les vacances scolaires.
C'est quoi le principe du passe-sport?
Alors le passe-sport, il y a plusieurs sports de proposer, et les enfants s'inscrivent sur la semaine dans ce qu'ils ont envie de faire, donc il n'y a pas que du sport, il y a aussi des activités manuelles. Donc ils s'inscrivent et puis après on a un nombre d'inscrits et sur la semaine, sur 5 jours, moi je leur fais découvrir ce que c'est que l'escrime. Donc voilà, et c'est vrai que ça plaît beaucoup. L'escrime plaît énormément, que ce soit dans les écoles, sur le passe-sport. Je suis allée aussi à l'IME Clairejoie à Trévol avec des enfants donc, qui ont des déficiences physiques ou mentales. Mais c'est vrai que c'est un sport qui plaît énormément, qui n'est pas assez connu à mon goût. Et ce qui est en plus dommage, c'est qu'il n'y a pas de club sur Moulins.
Et justement, que permet pour vous ce sport? Que permet l'escrime de développer comme capacité, notamment chez l'enfant, chez les jeunes?
Alors chez les jeunes, ça permet de développer tout ce qui est coordination, main droite, pied droit, parce que ça, c'est pas toujours acquis, et pas que chez les jeunes enfants, des fois, même chez les ados adultes, des fois, il y en a qui ont un peu de mal. Ça permet la concentration aussi, tout ce qui est concentration, les règles de sécurité, d'apprendre à être ensemble, parce que bon, on fait aussi des petites phases d'arbitrage, donc... Bah, il faut apprendre à être, vivre ensemble avec les autres, être assez juste dans ce qu'on fait, parce que des fois, bah, ils aiment bien « Ah, c'est mon copain, donc je vais essayer de le faire gagner lui. » Et on apprend aussi à perdre, parce que c'est peut-être bête à dire, mais avant de gagner, il faut perdre. Et c'est vrai que les enfants ont beaucoup de mal, pour certains, à perdre. Et bah, des fois, on part un petit peu dans des enfants qui pleurent ou... qui s'énervent, donc il faut leur expliquer qu'on ne peut pas toujours gagner et que voilà, faut apprendre à perdre.
Et alors, comme dans d'autres disciplines, on a de grandes chances de médailles au JO de Paris pour vous?
Oui, je pense.
Vous allez suivre de près le parcours des Français, des Françaises?
Ah oui, bien sûr.
Alors Christine Doron, de votre côté, ce n'est pas l'escrime, mais c'est le basket qui retient toute votre attention, c'est bien ça?
Tout à fait. Comme ma collègue, moi j'ai commencé à l'âge de 11 ans le basket. Alors pas dans l'Allier, hein, j'étais du côté de la Loire. Et ça est devenu une passion, tellement que c'est devenu une passion. Bon, j'ai joué à un niveau national. Et puis après, quand je suis arrivée dans l'Allier, donc on a joué aussi à un niveau régional un peu plus bas. Mais bon, on a réussi quand même à monter une belle équipe pendant des années. Voilà, sachant que le club de Moulins se développe beaucoup là au niveau des jeunes. Donc ça, c'est intéressant. intéressant. Par la suite, vu mon âge maintenant, je me suis orientée plus sur l'arbitrage, puisque j'ai commencé quand même, ça fait 30 ans que j'arbitre, au niveau régional. Donc je me déplace dans toute maintenant l'Auvergne, donc ce qui est intéressant. Après, je m'occupe de la formation arbitre aussi, au niveau du comité de l'Allier. Et c'est là où il y a gros travail, parce qu'on pense aux sportifs, mais aussi il faut voir aussi le côté à côté l'arbitrage, parce que on en manque justement, on manque beaucoup trop d'arbitres. Et souvent c'est dû déjà, je pense, à l'attitude des joueurs sur les terrains, donc ça implique aussi d'avoir un certain caractère pour pouvoir arbitrer. C'est pour ça qu'on essaye de former les jeunes à ça. Voilà, donc, et après je suis passionnée du sport, donc je suis orientée aussi au niveau professionnel, puisque je suis devenue éducatrice sportive, voilà, qui m'a permis, comme ma collègue Karine, d'aller sur les écoles, les TAP, etc., pour développer le sport au maximum. Et elle parlait du passeport jeune. Là, justement, je rajouterais juste que le passeport jeune dans l'Allier, ça se développe grâce à Moulin Communauté, qui permet justement de mettre en place ces activités à Noël et à Pâques, puisque il y a une grosse demande sur notre département d'activités sportives. Donc, comme vous disiez tout à l'heure sur l'interview, j'ai entendu, c'est vrai que ça manque un peu de mettre en place des activités sportives sur notre département. Mais je pense que c'est un peu partout pareil. On manque de temps, mais aussi on manque, je pense, d'éducateurs aussi, parce qu'on voit dans l'Allier, nous, on est en recherche avec notre structure profession sport loisirs Auvergne, d'éducateurs pour faire des animations sportives, pas seulement en basket, mais ne serait-ce qu'en gymnastique, où on peine à trouver des personnes qui sont diplômées d'État et qui restent aussi dans notre département, qui malheureusement est un peu trop rural. Donc c'est vrai que c'est compliqué.
Mais c'est paradoxal, voilà, ce que vous êtes en train de nous dire et ce que disaient tout à l'heure nos invités, parce qu'on entend de plus en plus parler de sport santé, de sport bien-être, de la pratique d'un sport, de l'importance de la pratique d'un sport. Et on se rend compte que c'est pas si évident, même au niveau structure, même au niveau, tout à l'heure, Père Pascal Girard disait, au niveau coût, parce que ça a quand même un coût aussi, une activité sportive.
Tout à fait. Oui. Il manque des moyens, quoi. Moyens humains, moyens matériels aussi, parce que on parle de, dans la ruralité, on n'a pas forcément des infrastructures, hein. On n'a pas forcément un gymnase, on n'a pas forcément, on est limité là déjà par rapport au matériel, mais je vous dis par rapport aux éducateurs, quoi. On manque d'éducateurs. Je pense que les jeunes partent dans les grandes villes, donc forcément on peine à trouver du monde pour animer nos séances.
Christine Doron et Karine Drouin, une toute dernière question. J'aimerais savoir comment vous arrivez à inculquer à un jeune, à un enfant, le goût de l'effort, parce que c'est pas naturel, le goût de l'effort.
Oui, c'est vrai que c'est pas naturel. Alors après, comment, je pense que c'est par le jeu, hein, qu'on peut arriver à donner le goût de l'effort à l'enfant. Et puis j'allais dire, c'est pas que nous éducateurs aussi. Enfin, il y a un gros travail aussi au niveau des parents, je pense. Si des parents sont déjà sportifs, nous, ça nous facilite la tâche. L'enfant va avoir le goût d'aller à l'activité. Je pense que c'est la base, les parents. Enfin, sur beaucoup de choses. Moi, je vois quand les parents sont sportifs, l'enfant, il n'y a pas de problème pour inculquer ce goût de l'effort. Après, pour le reste, c'est plus compliqué. Après, il faut amener l'enfant peut-être par des jeux ludiques. Là, peut-être qu'on arrivera à amener l'enfant vers l'effort, quoi.
Eh bien, un grand merci, Karine Drouin et Christine Doron, d'avoir participé à ce direct lors du passage de la flamme olympique dans le département de l'Allier où vous vous trouvez. Je rappelle que vous êtes salarié au sein de l'association Profession Sport et Loisirs Auvergne. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une belle journée.
De même, merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Richard Roussel, je rappelle que vous êtes le président du cercle Pierre de Coubertin en Auvergne. Ça vous inspire quoi, justement, ce que vous venez d'écouter? On nous dit manque de moyens, manque d'éducateurs.
On revient sur la problématique de l'école, donc pas assez de temps. Et vous avez là, après le deuxième palier, c'est le club, effectivement. On attaque directement avec le volontariat, le bénévolat. C'est-à-dire que si vous voulez faire marcher des clubs, il faut des bénévoles. De plus en plus.
C'est compliqué.
C'est très compliqué. La société évolue dans le mauvais sens, c'est-à-dire que maintenant, les gens sont plutôt nombrilistes et ont du mal à donner du temps aux autres, et gratuitement, et donc vous avez de moins en moins de bénévoles, et donc les petits clubs ont du mal à s'en sortir, et donc automatiquement, vous allez avoir des... Dans la ruralité peut-être, ou dans des ou éventuellement aussi en banlieue, dans les banlieues des grandes villes, vous allez avoir de moins en moins de gens qui vont pratiquer. Voilà. Par contre, il y a on parlait de problématiques de sport santé, on a quand même là l'impression que à partir d'un certain âge, que le citoyen français ou la citoyenne se remet à faire du sport parce qu'il a compris les bienfaits sur sa sur sa santé, sur son évolution physique, et là il y a quand même un réel phénomène. On voit de plus en plus de gens qui vont dans des salles de sport, salles de musculation. Les salles de musculation à Clermont sont blindées, des gens qui courent, qui font du vélo, la pratique loisir, c'est je fais ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux.
Exactement.
Et c'est le contraire du club. Voilà.
Père Pascal Girard, alors toujours en lien avec la flamme olympique, vous avez organisé un événement, c'était le week-end dernier à Rion, sur le département du Puy-de-Dôme, que la flamme paralympique brille pour tous. Comment est née cette démarche et qu'est-ce qui s'est passé justement sur le parvis d'Orion ?
Alors l'idée à la base, c'était de rappeler que le sport est pour tous. Et moi, ça fait depuis le début qu'on a les Jeux qui arrivent en France. Je suis souvent en train de rappeler, ce ne sont pas les Jeux Olympiques, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on parle de JOP et non pas de JO. Et donc on a voulu, notamment avec la pastorale du handicap, la catéchèse spécialisée, de monter un événement sur Yon. Alors c'est tombé sur la même date que la nuit du handicap, mais c'était compliqué de travailler sur ce domaine-là. Donc on a décidé, notamment avec la paroisse Notre-Dame-des-Sources à Rion, de monter à Troyes cet événement-là, qui était à la fois pour permettre aux jeunes ayant un handicap de se retrouver, mais aussi aux, entre guillemets, les personnes valides, de pouvoir expérimenter aussi ce que c'est que le sport paralympique. Donc il y a eu des courses en fauteuil roulant, voilà, s'initier à la boccia, enfin, etc. De découvrir aussi un peu plus les sports paralympiques, parce qu'il y a certains sports qui sont les mêmes que les valides, mais il y en a d'autres qui sont spécifiques. Donc c'était aussi d'avoir un temps à la fois de découverte et puis de convivialité, d'avoir vraiment un temps de fête.
Allez, il est 11h passé bientôt de 52 minutes. Nous marquons une pause musicale avec Claudio Capeo, Tour de France. Et juste après, bien, nous retrouverons Adrien Souton, qui est le directeur adjoint de l'Office de tourisme de Vichy, qui nous donnera quelques idées de sortie pour aujourd'hui et puis ces prochains jours, toujours en lien avec le passage de la flamme olympique.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires, tes petites piquettes qui collent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne, tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, tu m'accroches à tes prunelles. Tous les 14 juillet, tu brilles de mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois que je veux partir, voyager hors du pays, je reviens pour ton sourire. Ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. Hop, 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 hop. On ne fait jamais le tour de France. J'aime tes petites places, ricard et puis pétanque. M'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. J'ai
toi on ne s'ennuie jamais. T'as ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois je veux partir, voyager voir du pays. Je reviens pour ton sourire, ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter bien au Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. On ne fait jamais le tour de France.
Tour de France, Claudio Capéo, un Tour de France entamé par la flamme olympique et qui est en cette fin de matinée sur le département de l'Allier. L'Allier où nous rejoignons Adrien Souton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'Office de tourisme de Vichy. Alors c'est tout un département qui est en fait aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une adhésion, une véritable adhésion autour de cette flamme olympique, autour de ces Jeux olympiques et paralympiques ?
Oui, alors c'est tout un territoire, Vichy Communauté, qui s'est mis à l'heure olympique sur ce formidable week-end, puisque c'est aujourd'hui, on va dire, le départ avec la flamme olympique, et on aura tout un week-end qui sera orienté autour du sport, autour de la fête et des festivités, et puis par les temps qui courent, on en a bien besoin. Donc on sent vraiment une adhésion du territoire, des habitants qui vont être nombreux aujourd'hui à se réunir autour de la flamme.
Alors justement, vous en avez profité pour développer, vous le disiez, mettre en place différentes animations. Vous pouvez nous parler de ces animations, notamment pour cette journée ?
Oui, bien sûr. Alors pour aujourd'hui, la flamme, ce matin, elle était au Maillet de Montagne. Ensuite, du coup, elle est partie et elle part en ce moment même. Elle est à Saint-Thior, puis à Saint-Germain-des-Fossés entre 12h35 et 12h55. Après, cet après-midi, elle sera à QC, du coup, à partir de 14h50 jusqu'à 15h50, une arrivée sur la place Victor Hugo. Et en fin d'après-midi, à 17h30, elle partira du Creps, pour arriver à 19h20 sur la place de l'hôtel de ville de Vichy, où là, bon nombre d'animations sont prévues. Aujourd'hui, notamment, vous avez pas mal d'animations au niveau de la place de la mairie de Vichy, par exemple, où vous avez tout un village olympique avec des animations, des présentations de différents sports. Sur le lac d'Allier, cet après-midi, vous avez des présentations aussi d'autres sports par le club nautique de Vichy. Des animations culturelles dans le parc des Sources qui vient juste d'être réouvert aujourd'hui, puisque le parc des Sources est en travaux, réouvert aujourd'hui pour l'occasion, avec des animations là aussi sportives autour des sports olympiques. Et puis c'est surtout ce soir où vous aurez la flamme qui arrivera devant l'hôtel de ville de Vichy, avec là le village olympique et l'allumage de chaudron à partir de 19h30.
Et alors Adrien Souton, j'ai pu découvrir dans le programme qu'on pourra apprendre cet après-midi la danse des Jeux.
Oui, tout à fait, on pourra apprendre la danse des Jeux au niveau du village olympique. Donc vous aurez plusieurs écoles de danse qui vont apprendre la danse des Jeux au niveau de ce village olympique. Et puis surtout ce soir, si vous avez bien appris la danse, vous pourrez continuer la soirée avec la fête de la musique. Vous avez plusieurs communes de Vichy Communauté qui ont prévu des concerts, et notamment à Vichy, au Fer à Cheval, récemment rénové. Et vous avez là ce soir trois concerts, un à 20h, un à 21h et un dernier à 22h pour finir la soirée en musique et pouvoir participer et peut-être faire la danse des Jeux à ce moment-là.
Adrien Souton, parlons de la période estivale. La saison estivale se présente bien déjà à Vichy ? Vous sentez de l'engouement ?
Alors la saison estivale se présente bien. On a une activité, enfin en tout cas, il y aura plein de choses à faire du coup à Vichy et aux alentours. Des programmes très riches autour du Grand Casino de Vichy, avec notamment des concerts, un spectacle cabaret tout l'été qui s'appelle Vichy Petit, qui retrace les 2000 ans d'histoire de la ville. Vous aurez aussi des belles animations sur les villes de QC et de Bellerive. Un programme en montagne bourbonnaise avec beaucoup de fêtes en montagne bourbonnaise, avec notamment les grands jeux de la montagne bourbonnaise. Vous allez avoir la fête de la cerise, la fête du panier. Vous allez avoir les 100 ans de Glozel également en montagne bourbonnaise, donc beaucoup de temps fort. Et puis, on espère, en fait, c'est le petit absent pour le moment, on espère que le soleil va revenir en Auvergne pour qu'on puisse avoir un été magnifique. En tout cas, beaucoup de choses à faire sur Vichy sur les 2 mois d'été.
Mais bien sûr, il va revenir en Auvergne, c'est qu'une question de jour.
C'est une question de jour, mais c'est vrai qu'on l'attend maintenant depuis de nombreuses semaines, et c'est vrai que le début de saison a été un petit peu perturbé par par ce manque de soleil et puis par des températures un peu plus clémentes. Donc on espère que la flamme va rallumer le soleil et la météo.
Le soleil va arriver avec la flamme, effectivement. Et alors, est-ce les visites guidées se poursuivent durant l'été ?
Ah, bien sûr, alors on a un programme très chargé au niveau des visites guidées. On a 19 thématiques de visites guidées différentes pour découvrir la ville, pour découvrir aussi le territoire, puisque vous pouvez visiter aussi le château de Billy, la forteresse de Billy, ou le magnifique village de Châtel-Montagne. Donc vous avez des visites qui sont prévues tout l'été. Tout est disponible sur la billetterie vichymonamour.fr. Et vous avez aussi des choses plus, différentes que l'on a mis en place, notamment un escape game dans l'Opéra de Vichy pendant tout l'été, une visite en audio numérique aussi de l'Opéra qui vous fera plonger au début du siècle dernier dans une histoire et vous allez vivre une histoire dans l'Opéra. Donc beaucoup de choses très différentes.
Voilà
et puis cet été.
Oui, voilà de quoi. Je suis obligé de vous couper parce que le temps passe très très vite. Rendez-vous donc à Vichy et rendez-vous sur vichymonamour.fr. Merci beaucoup Adrien Souton d'avoir passé ces quelques instants à nos côtés. Je vous souhaite une belle journée et profitez bien de la flamme olympique.
C'est moi qui vous remercie pour cette belle mise en lumière. Merci beaucoup. Au revoir.
Avec grand plaisir. Au revoir. Vous êtes bien à l'écoute des programmes de RCF. Nous poursuivons ce direct autour de la flamme olympique dans maintenant un peu plus de 7 minutes, mais pour l'instant, il est tout juste midi. Le journal de cette mi-journée nous est proposé par Pierre Gaudin. Bonjour Pierre.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, focus sur les structures qui prennent en charge les addictions en Haute-Loire. Un nouveau prêtre pour le diocèse de Clermont, il sera ordonné dimanche, qui vient à 15h à Cusset. Les plus jeunes participent à leurs propres Olympiades dans cette journée de relais de la flamme dans le sud de l'Allier. Pour les législatives, plus d'un million de procurations ont été établies. C'est 6 fois plus que pour les législatives de 2022 à la même période. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur ce vendredi. L'archevêque Carlo Maria Vigano, dans le viseur du dicaster pour la doctrine de la foi du Vatican, accusé de délit de schisme et d'avoir nié la légitimité du pape François, il était convoqué hier pour se voir notifier ses accusations, annonce-t-il. Il pourrait être excommunié. Sur le réseau social X, il affirme considérer ses accusations comme un honneur.
Partout en Auvergne, la prise en charge des addictions est un enjeu de santé publique.
Vaincre le tabac, l'alcool, le cannabis, la cocaïne. En Haute-Loire, plusieurs structures sont chargées de s'occuper des patients. Deux possibilités, un traitement hospitalier ou en ambulatoire. Les patients sont accompagnés pendant et après le sevrage. Les explications de Pauline Dumas.
Au centre hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay, la prise en charge est sanitaire. Elle comprend notamment le sevrage hospitalier. Il peut durer plusieurs jours. Le docteur Antoine Gérard, chef du service addictologie.
La durée moyenne de séjour, c'est à peu près une semaine, avec une surveillance des signes de manque physique par les infirmières et puis une prise en charge quotidienne par le médecin, l'assistante sociale, la psychologue et les infirmières pour faire de l'éducation thérapeutique.
Objectif ? Trouver des solutions aux différentes problématiques causées par les addictions.
La psychologue, en fait, elle essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'histoire du patient. Les infirmières gèrent tout ce qui est éducation thérapeutique, apprendre au patient la maladie, les conséquences, et le médecin fait le complément avec les bilans des complications et puis les médicaments éventuellement qui seraient ajustés.
La prise en charge d'une addiction après le sevrage peut se faire en dehors de l'hôpital, dans un établissement médico-social. C'est l'un des rôles de l'association Addiction France. Mélanie Cuoc est sa directrice.
Ils s'organisent en fait avec un accueil qui est assez long. On prend au moins une heure avec la personne accompagnée. Elle va en fait parler de ses problèmes en addiction, des traumatismes qu'elle a pu subir. Ensuite, on a une prise en charge selon en fait son projet de soins.
La prise en charge au centre hospitalier combinée à celle d'Addiction France permet de mailler l'ensemble de la Haute-Loire.
Et environ 850 patients sont traités pour leurs addictions au sein du centre hospitalier Émile Roux chaque année.
Pierre, le diocèse de Clermont qui compte 90 prêtres accueille un nouveau prêtre ce dimanche.
Et oui, c'est le diacre Arsène Cagonet, originaire du Burkina Faso, qui sera ordonné à 15h à la cathédrale Notre-Dame de Clermont. Le diocèse qui accueillera, si tout va bien, à la rentrée prochaine, plusieurs nouveaux séminaristes. Monseigneur François Caliste, archevêque de Clermont, est au micro de Stéphane Marcelot.
Nous aurions donc à la rentrée prochaine trois nouveaux séminaristes entrant au séminaire. Alors il est un peu
tôt pour tirer des conclusions, risquer des hypothèses. Il est certain qu'il y a une forme de renouveau dans la demande sacramentelle. Hein, on l'a vu cette année autour de Pâques avec les demandes de baptême. Je le vois presque quotidiennement avec des demandes de baptême, de confirmation, de première communion, y compris de personnes adultes. Il y a manifestement un frémissement, il y a une demande, il y a quelque chose qui se passe. Et alors, faut-il rattacher ces trois entrées au séminaire à ce mouvement de demande sacramentelle? Je l'ignore. Enfin, je pense en tout cas que c'est un signe de vitalité.
La cérémonie d'ordination d'Arsène Caguenet à la cathédrale de Clermont, donc dimanche 23 juin, à suivre à partir de 15h sur RCF. Des villages des sports sont organisés en Haute-Loire. Ils permettent de découvrir diverses disciplines sportives. Une étape demain à Tence, il y en aura d'autres le 29 juin, le 20 juillet, le 7 septembre à Yssingeau, Saint-André-de-Chalençon et Lantriac.
On en parle dans cette émission jusqu'à 12h30. Dans 34 jours, la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Oui, les maisons de l'enfance de Cusset ont organisé leur 4e édition de leurs Olympiades, des mini-JO pour inculquer des valeurs du sport aux plus petits. Un reportage d'Esther Dabert.
3, 2, 1, c'est parti.
Adapter les épreuves des JO pour des enfants de 6 à 11 ans, c'est le défi que se sont lancés les 4 maisons de l'enfance de Cusset. Un projet porté depuis 4 ans par l'adjointe à l'enfance et à l'éducation de la ville, Marie-Josée Morier.
C'est effectivement pour leur faire respecter des valeurs, qui se regroupent, qui se connaissent, qui participent d'une belle façon, dans la bonne humeur et avec beaucoup d'entraide entre eux et de joie. Et voilà, c'est pour les fédérer surtout.
Aujourd'hui, les enfants se sont essayés au slalom plateforme et tous semblent avoir été conquis par l'événement.
Oui, parce qu'en plus, les animateurs mettent de l'ambiance avec la musique. Enfin, c'est trop bien en fait. Et là, ça inclut tout le monde et c'est mieux du coup.
Et puis aussi, moi je trouve qu'ils y mettent du cœur. Ils achètent un peu de matériel, par exemple les pistolets à eau. Ça se voit qu'ils ont envie de nous faire plaisir en faisant ça.
La cérémonie de remise des médailles a eu lieu hier après-midi. Et même si le projet s'inscrivait dans le cadre des JO, les organisateurs n'excluent pas l'idée de nouvelles Olympiades l'année prochaine.
Et aujourd'hui, le sport est d'ailleurs à l'honneur à Vichy avec ce passage de la flamme olympique dans l'Allier. Vous pouvez suivre son parcours donc avec nous tout de suite, mais aussi ce soir à 18h. Et d'ailleurs, si vous êtes sur place à Vichy, juste après l'arrivée de la flamme, ce sera bien sûr la fête de la musique à Vichy comme ailleurs. Dans la cité thermale, à partir de 20h, une programmation blues et électro-swing, mais aussi musique d'inspiration traditionnelle avec Tchak Boom au fer à cheval. Au Puy-en-Velay, place du marché couvert, le groupe Jukebox reprend des chansons françaises et internationales. C'est à partir de 19h30. Également deux groupes de métal qui seront présents à Cournon d'Auvergne dans un autre style. Et puis on parle également de football avec ce match de l'équipe de France. C'est ce soir pour l'Euro. Kylian Mbappé ne portera pas de masque tricolore. Vous avez peut-être vu les photos de Kylian Mbappé avec ce masque bleu, blanc, rouge à l'entraînement. Eh bien, c'est le règlement, il ne pourra pas le porter lors du match de ce soir que les Bleus vont jouer face aux Pays-Bas. Et puis pour ce rendez-vous, c'est à 21h. D'ailleurs, certains bars s'arrêteront de jouer de la musique le temps du match pour reprendre la fête de la musique à ce moment-là. Voilà, c'est des bars qui proposent ce service en Auvergne. Tout de suite, on jette un coup d'œil à la météo. Donc la météo avec cet après-midi de nouvelles éclaircies sur l'Auvergne, mais certaines zones resteront pluvieuses. Des averses peuvent survenir dans les Combrailles, dans l'ouest du Cantal. Des orages qui sont susceptibles de survenir toujours au cours de la journée. D'ailleurs, ils sont présents sur toute l'Auvergne pendant la soirée. Pour ce qui est des températures, il faut s'attendre à 21 degrés à Yssingeau et Saugues, mais aussi à Bourbon-l'Archambault, 22 degrés à Craponne-sur-Arzon, mais aussi à Pont-au-Mur et Lurcy-Lévis, 23 degrés à Saint-Pourçain cet après-midi, 24 degrés à Thiers ou au Maillet de Montagne ou encore Dompierre-sur-Bèbre, 25 à Clermont-Ferrand, 26 à Saint-Dié d'Auvergne. Et puis demain matin, de nouveau des nuages sur l'Auvergne. Pour ce qui est de ce week-end, eh bien, ce sera quand même des éclaircies malgré quelques épisodes de pluie.
Eh bien voilà, enfin des éclaircies. Merci Pierre pour ce journal et je vous invite maintenant à rejoindre la flamme olympique puisque vous trouvez sur le département de l'Allier. À bientôt.
À bientôt Laurent.
Dans quelques minutes, nous rejoindrons d'ailleurs notre reporter qui se trouve à Saint-Germain-des-Fossés pour suivre cette flamme. Et puis, juste après avoir écouté Voyou, Soleil, Soleil, c'est Jean-Michel Barlet, président de la section tir à l'arc au Stade Clermontois, qui sera avec nous et qui sera au micro de Stéphane Marcelot, notre Robin des Bois sur RCF.
Chavire mon cœur, engourdi du simple plaisir d'être à ne rien faire, à scruter des heures, assis à ma fenêtre. Un rayon passe et tout vient à briller. Les tout petits riens. Soleil, quand tu t'invites aux merveilles à ma fenêtre. Soleil, soleil, soudain la poussière se transforme en
Voyou, soleil, soleil à 12h10 sur RCF en Auvergne. Et alors que la flamme olympique traverse notre région aujourd'hui, nous vous retrouvons au Stéphane pour une émission de circonstances Destin Olympique.
Et oui, tout au long de la saison, Laurent, et c'est une grande fierté, on peut le dire, pour les équipes RCF de vous avoir proposé un vendredi sur deux ce format Destin Olympique avec un retour sur le parcours, sur les exploits, les médailles, les larmes de joie ou de peine de nos sportifs auvergnats qui ont participé à la grande histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je n'exagère pas quand je parle de larmes, car parfois, eh bien, le fait de remuer dans les souvenirs ces moments uniques de sacrifice que constituent les Jeux pour un athlète, on peut parfois être un petit peu submergé. Les athlètes, Laurent, mais aussi leurs accompagnateurs, entraîneurs, arbitres, j'insiste, que nous avons reçu cette saison. Je pense notamment à Denis Cadon, l'arbitre mondial de natation, le Clermontois. Un petit clin d'œil, hein, alors que se déroulent en ce moment les championnats de France. Aujourd'hui, le destin olympique que l'on vous raconte, eh bien, c'est celui de Sébastien Flûte, champion olympique de tir à l'arc aux Jeux de Barcelone en 1992. Ancien pensionnaire du stade Clermontois, Sébastien Flûte, qui est aujourd'hui l'une des têtes d'affiche de l'organisation des épreuves de tir à l'arc des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et pour en parler avec nous, nous accueillons par téléphone Jean-Michel Barlet. Bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
On est ravis de vous accueillir. Vous êtes le président de la section tir à l'arc au stade Clermontois. Vous connaissez évidemment bien notre champion du jour. Alors un mot d'abord sur votre association. Le stade Clermontois, c'est une grande famille, une vingtaine de disciplines, dont le tir.
C'est ça, 22 sections, 4400 adhérents, dont le tir à l'arc qui est une des sections phares, puisque on a déjà obtenu 13 titres de champion de France par équipe. Donc il y a une très grande et longue tradition du tir à l'arc à Clermont-Ferrand, depuis pas seulement depuis Barcelone, mais ça s'est évidemment amplifié avec effectivement là à ce jour la seule et unique médaille olympique d'or pour le stadiste Sébastien Flûte. Voilà.
Voilà, tout ça, ça fait beaucoup de médailles, beaucoup de trophées à mettre dans votre vitrine. Il faut faire de la place.
Oui.
Ça devient pas simple.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, Richard Roussel, vous êtes toujours à nos côtés. Le tir à l'arc, qui, joli clin d'œil de l'histoire d'ailleurs, a fait sa première apparition aux Jeux en 1900, aux Jeux de Paris.
Oui, en 1900, c'est la première fois que le tir à l'arc apparaît dans une édition. Alors, controversé, puisque les Jeux de 1900 se sont déroulés dans le cadre de l'exposition universelle, donc qui ont été labellisés Jeux Olympiques après, mais le CIO a reconnu donc cette date-là comme première apparition du tir à l'arc. Jusqu'en 1920, le tir à l'arc est présent, sauf en 1912, et puis après une éclipse pendant très longtemps, de 1924, donc organisée en France, jusqu'en 1968, réapparition du tir à l'arc en 1972 aux Jeux Olympiques de Munich. Voilà. qui est maintenant, c'est une activité qui est pérennisée au sein de l'institution olympique. Pour le moment, ça n'a pas bougé, alors que certains sports ont été à un moment donné sur la sellette pour sortir du programme. Le tir à l'arc est une activité qui est bien représentée maintenant depuis 1972. Voilà.
Et pour bien expliquer à nos auditeurs, Jean-Michel Barlet, on a des épreuves à la fois en individuel et en équipe.
Alors voilà, on a trois sélectionnés olympiques par nation qui obtiennent des quotas sur les quatre années précédentes en fonction des résultats continentaux, donc sur les championnats, nous en l'occurrence c'est les championnats d'Europe, donc on obtient des quotas, et quand on obtient des quotas par pays, on a trois archers qui vont concourir en individuel et qui constitueront en même temps l'équipe. Et la petite nouveauté depuis les Jeux Olympiques de Rio, c'est que il y a du double mixte maintenant qui est rentré aussi. Donc non seulement le tir à l'arc a pérennisé sa place, comme ça vient d'être dit, mais a même augmenté sa position dans la mesure où l'épreuve mixte est maintenant rentrée au jeu. Donc elle concerne un podium potentiel pour une équipe, un garçon plus une fille de même nation, évidemment, qui peut obtenir un podium et des médailles. Voilà.
L'équipe de France qui va participer à Paris 2024, là, ça y est, elle est connue.
Oui, alors, vous savez qu'on est très superstitieux dans le monde du sport, donc j'en fais partie. Donc, elle n'est pas annoncée, mais elle est quasiment actée. Et je peux vous dire que nous avons un Clermontois, donc à la personne de Thomas Chirot, qui va être le digne successeur, j'espère, de Sébastien, qui a déjà, on va dire, un pied plus quatre orteils à Paris. Il est en ce moment en compétition avec l'équipe de France en Coupe du Monde. En fin de semaine prochaine, c'est-à-dire exactement dans 7 jours, nous connaîtrons officiellement la sélection française pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais bon, on peut dire qu'on a de très très fortes chances d'avoir un Clermontois aux Jeux Olympiques en tir à l'arc.
Allez, venons-en à ce 3 août 1992. Jean-Michel, bien sûr, où Sébastien Flûte est devenu le premier champion olympique français de tir à l'arc. Oui. Il était Clermontois depuis un an, 1991. Racontez-nous d'abord comment s'est faite son arrivée en Auvergne et pourquoi Clermont, lui, le natif de Brest.
Alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que moi, à l'époque, j'étais, si maintenant je suis président du Stade Clermontois, à l'époque, j'étais entraîneur national chargé de la préparation olympique depuis 88. Donc sur la période 88-92. Et il se trouve que donc moi, j'avais Sébastien dans le collectif de préparation olympique, donc à l'INSEP, bien sûr. Et à ce titre-là, évidemment, j'étais dans le staff à Barcelone. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, Sébastien, il a commencé le tir à l'arc à Brest. Son papa était officier supérieur dans la Marine nationale. Et le jour où son papa est parti en retraite, ils ont quitté Brest. Et lui, il cherchait un club. Il commençait à prendre, on va dire, de l'envergure parce qu'il a déjà été champion d'Europe junior. L'année précédente les Jeux, et donc il a cherché à venir en priorité dans un club qui jouait des titres nationaux, qui avait des moyens de fonctionnement élevés, qui pouvait correspondre à ses ambitions. Donc comme je vous l'ai dit, on en est aujourd'hui à 13 titres de champion de France par équipe, donc il y en avait déjà 3 ou 4 à l'époque, et donc il voulait s'inscrire dans la durée dans un club avec des ambitions et des moyens, voilà, tout simplement. Et comme en plus moi j'étais évidemment Clermontois, et en même temps, on va dire, dans le pool d'entraîneurs de l'INSEP, ça s'est fait d'une façon assez évidente. Voilà.
Il arrive à Clermont en 1991. À cette époque, il est tout jeune, hein, Sébastien Flûte. C'est une année d'ailleurs où il décroche un titre de champion du monde en salle en Finlande. Vous y étiez, forcément.
Ah oui, j'y étais. Ouais. Ça a été un très très grand moment. Et parce que c'était son premier titre en senior, hein. Il avait été champion d'Europe junior l'année d'avant, c'est comme dans tous les sports, le fait d'être dans les meilleurs juniors mondiaux n'est pas toujours une garantie, parce que le gap avec les seniors est souvent très très important, surtout sur les premières années, surtout dans un sport comme le tir à l'arc qui est quand même un sport qui demande beaucoup d'expérience et de la maturité. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Sébastien avait un tel talent, hors norme, et ça s'est confirmé très rapidement, qu'effectivement, dès sa première participation au championnat du monde en salle, il a été champion du monde. Donc là, ça a été un grand moment. Et ensuite, on a enchaîné. Il ne faut pas oublier que si Sébastien est champion olympique de tir à l'arc, il a quand même un palmarès important. Il n'y a pas que ça. Il y a un palmarès important. Et un mois avant les Jeux olympiques de Barcelone, il avait été champion d'Europe à Malte, en individuel également. Un mois avant les Jeux olympiques.
1991, champion du monde, et donc 1992, ouais. Cette confirmation, cette consécration en or aux Jeux de Barcelone.
S'il y a
un souvenir, vous, vraiment une image suivant, que vous gardez de ce moment?
L'image, c'est vraiment le, il y en a une qui est très marquante, mais bon, c'est très classique en fait, mais on a beau essayer de trouver d'autres choses, on en reviendra toujours là. C'est très bateau, très classique. C'est Sébastien en larmes sur le podium, en train de chanter la Marseillaise la main sur le cœur. Voilà, on peut pas imaginer plus grand moment d'émotion. C'est complètement bateau, hein, ce que je vous réponds. Il y a rien de, mais voilà, c'est magnifique. Bon, en plus, il a eu une compétition où il était pas favori, parce que même s'il avait été champion d'Europe, il ne faut pas oublier qu'on a une nation extrêmement dominante, dont c'est le sport national, c'est la Corée, hein, puisque la Corée, c'est le sport national là-bas. Donc, il a quand même battu 3 Coréens dans son tableau, dont un en finale. Donc, ça a été très, 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 très chargé en émotions. Voilà. Donc, quand vous montez sur le podium dans un sport comme ça, qui demande une telle intensité de concentration, de maîtrise de sa nervosité, quand vous atteignez le Graal, quand vous êtes sur le podium, tout part, quoi, tout lâche. Et bon, quand vous êtes au pied du podium et que vous voyez Sébastien, qui est quand même quelqu'un qui, forcément, pour atteindre ce niveau de performance, est mentalement quelqu'un d'extrêmement solide, forcément, avec des qualités exceptionnelles d'athlète de haut niveau. Quand vous le voyez à 19 ans, en pleurs sur un podium en train de chanter la Marseillaise, bon, c'est forcément le grand moment. Voilà.
D'ailleurs, ce début des années 90 est totalement fou pour lui. Hein. 91, ce titre de champion du monde. 92, les JO. Ouais. 93, champion du monde par équipe. Parce que la France n'a d'ailleurs toujours pas réédité. Il a fallu le digérer émotionnellement aussi pour lui, si jeune, quand on a 20 ans, à avoir tous ces titres. Ça n'a pas été facile ensuite.
Non, ça n'a pas été évident. Alors après, ça l'a pas empêché de continuer à faire des podiums. Hein. Et ensuite, il a enchaîné effectivement sur Atlanta. Ils ont réussi à, enfin pas sur Atlanta, mais sur les championnats du monde précédents à Atlanta, ils ont réussi à être champion du monde par équipe, ce qui n'est quand même pas rien. Mais c'est sûr que c'est pas très évident. À 19 ans, en plus, bon, il avait même pas le bac à l'époque. Hein. C'est pour vous dire au niveau études et tout, c'est pas et ça vous tombe d'un coup, vous rentrez à Clermont, vous êtes sollicité par la presse, voire même la presse nationale, les sponsors, etc. C'est pas facile, hein. Mais bon, je pense que bon, maintenant quand on prend du recul et qu'on voit maintenant que Sébastien la carrière professionnelle qu'il fait et qui va être le directeur des tirs pour le CIO au JO, on peut dire que il a fait quand même une sacrée belle reconversion.
Justement, pour terminer, Jean-Michel, un mot sur cette reconversion. Sébastien Flutte, c'est en quelque sorte le monsieur tir à l'arc là, des JO de Paris qui débute dans quelques semaines. Hein. C'est lui qui est chargé de la mise en place du site de compétition.
C'est ça.
Aux Invalides.
Absolument, absolument. Ça va être le. Nous, on appelle ça le directeur des tirs. Hein, donc, mais ça veut dire qu'il, voilà, c'est lui qui est chargé vraiment de la mise en place pratique de A à Z. Il est chargé de mission pour l'organisation. Directement par le CNOSF et le CIO pour organiser donc l'épreuve de tir à l'arc dont les finales auront lieu, je vous le précise, place du Trocadéro. Donc ça va être quand même un spectacle absolument phénoménal, qu'on soit sur place ou à la télé d'ailleurs.
Ouais, ça va être fantastique et on imagine que Sébastien Flutte aurait aimé se glisser parmi eux pour concourir.
Ouais, bah je crois que bon, après voilà, on est tous pareils. Hein. Une fois que votre carrière de haut niveau elle est terminée, il faut aussi savoir tourner la page de ce côté-là. Hein. Alors il y aura forcément un petit peu de nostalgie. Bon, je pense que si les Français sont performants, je pense que bon, il n'aura pas de regret de pas concourir. Quoi. Voilà.
C'était un immense plaisir de vous avoir en direct aujourd'hui, Jean-Michel Barlet, pour ce très beau clin d'œil que vous avez fait à Sébastien Flûte. Merci beaucoup.
Moi de même. Merci à vous et j'espère à très bientôt. Et puis j'espère qu'on se reparlera en septembre pour parler de médailles aux Jeux Olympiques.
On croise les doigts et très bon JO à vous.
Exactement. Allez.
Stéphane, on marque une petite pause avec AD Sunset, le temps de joindre notre reporter Jérémy Coulon qui se trouve du côté de Saint-Germain-des-Fossés.
J'écris des mots que je t'enverrai pas. Je me vide la tête, mais je pense qu'à toi. Je cherche mon cœur, je sais pas où il bat. Et je t'attends, tu viens quand déjà. Regardez la mer. Mais tu sais, je pleure quand tu me souris. Le soleil se couche, je veux toucher ta bouche. Et je pleure quand tu m'as menti. Le soleil se couche, même quand la nuit est louche. Oh, 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 viens voir le sunset. Oh, 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 oh,
tout au long de ce direct, vous le savez, nous suivons la flamme olympique grâce à nos reporters et c'est Jérémy Coulon que nous rejoignons à Saint-Germain-des-Fossés. Bonjour Jérémy.
Bonjour Laurent, bonjour à tous, salutations olympiques.
Alors la question est sur toutes les lèvres depuis ce matin, il fait quel temps du côté de Saint-Germain-des-Fossés ?
Et vous avez tout à fait raison, Laurent. C'est le sujet de préoccupation majeure des organisateurs ici, c'est la météo. Mais là, je dois dire que même si ce matin, en arrivant, j'ai eu très très peur parce qu'on a eu plusieurs rafales de pluie, eh bien depuis une bonne vingtaine de minutes, le soleil est au rendez-vous. Un soleil resplendissant ici sur la gare. Il fait même presque chaud à Saint-Germain-des-Fossés. Voilà, c'est cette commune de 3500 habitants qui accueille donc le départ de la flamme olympique ici à la gare.
Alors j'ai l'impression, Jérémy, qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants autour de vous.
Exactement, il y a énormément d'enfants ici. Déjà, rien que sur Saint-Germain-des-Fossés, il y a 650 enfants qui sont scolarisés, dont 350 au collège, et ils sont tous présents aujourd'hui. Puis, il y a quelques groupes d'enfants qui sont venus avec leurs enseignants des écoles environnantes de cette agglomération vichysoise, comme par exemple Isserpamp. Les enfants ont beaucoup, beaucoup travaillé ici à l'arrivée de cette flamme olympique, puisque à l'espace Fernand Reynaud, où la flamme arrivera dans une vingtaine de minutes, eh bien, il y a plusieurs expositions, des messages que les athlètes peuvent laisser à destination des enfants. Et puis bien sûr, ce matin, la séance de dédicace avec Miss Auvergne, qui était là présente pour signer les autographes aux enfants, Oriane Mallet, qui est Miss Auvergne 2023. Donc ça s'est très bien passé. Et puis les enfants ont aussi animé des danses qui vont exécuter tout à l'heure à l'arrivée de la flamme.
Quelle chance vous avez, Jérémy. Alors, décrivez-nous un petit peu l'ambiance autour de nous, de vous.
Eh bien écoutez, au fond, vous entendez très certainement, Laurent, dans le téléphone, la banda. C'est la banda l'indépendante de Saint-Germain-des-Fossés qui anime ce départ de la flamme. Et il y a beaucoup d'animation, je l'ai dit, avec les enfants. Mais aussi, à l'arrivée, il y a des jeux gonflables, des séances de sauts d'obstacles, des slaloms. Voilà, l'après-midi a été vraiment vu comme une après-midi olympique et grand public. Donc vraiment, le soleil est au rendez-vous, l'ambiance est au rendez-vous et la flamme va arriver ici à la gare dans quelques secondes maintenant. Je suis juste en face du bus qui transporte les porteurs de flammes. Ils sont six d'ailleurs, et l'enfant du pays, c'est Clémence Rippen qui a été choisie par la commune et qui est la première porteuse. Elle est rugby woman et elle a notamment remporté avec son équipe un titre de champion du monde de rugby militaire en 2023. C'était face à la Nouvelle-Zélande.
Eh bien Jérémy, on vous laisse profiter de l'instant présent. Un grand merci, à très bientôt sur RCF.
Merci Laurent, à très bientôt. Bonne journée.
Voilà Stéphane, on sent vraiment l'engouement autour de cette flamme qui traverse justement notre région, qui traverse l'Auvergne.
Oui, ça monte crescendo. En tout cas, on peut le dire, ce soir, Vichy, ça va être vraiment une très grande fête. Et puis, on sent que les enfants, les familles aussi s'approprient cet événement. Il y a aussi la fête de la musique. Hein. Je crois qu'on peut le dire que les planètes sont alignées. avec une petite incertitude pour la météo, mais les planètes sont alignées en tout cas pour une très belle soirée.
Et on retrouve donc tous nos invités là, à la rentrée ou même pendant l'été pour un peu compter les médailles à la fin de l'été. J'espère.
Voilà, bah voilà,
avec
ça,
de nombreuses médailles françaises.
On va croiser les doigts. C'est sûr que la concurrence sera rude pour l'équipe de France olympique, pour l'équipe de France paralympique. Mais allez, si on est optimiste, pourquoi pas viser une cinquième place, une sixième place au tableau des médailles, ce qu'on a plus, je crois, quand même, Richard, de mémoire, depuis un bon bout de temps en Sydney 2000, peut-être oui, la dernière performance pour l'équipe de France.
Après,
avec la mondialisation du sport, c'est de plus en plus difficile.
C'est de plus en plus difficile, mais je crois qu'on a un potentiel un peu plus affirmé que les autres années. Par exemple, on prend le cas du tennis de table, les frères Lebrun. Le tennis de table, c'est on parlait de 92, ouais. C'était Jean-Philippe Gassien, voilà. Donc voilà, donc dans beaucoup de sports maintenant, et puis il y a eu des ouvertures de sports. On a parlé du breakdance. Il y a des sports qui sont porteurs chez nous comme l'escalade. On devrait normalement pouvoir arriver peut-être sur la cinquième place.
Très rapidement, Jean-Luc, est-ce qu'il y a un sportif, une sportive qui vous fait rêver, que vous avez hâte là de voir fin juillet devant vos écrans?
Alors, il y en a plusieurs, mais pour moi les JO, ça reste quand même le décathlon. C'est pour moi plutôt le début des JO, ça a été ça, et c'est l'épreuve qui demande le plus de complémentarité dans l'espoir.
Et vous, Père Pascal Girard, justement, vous allez suivre un ou une athlète plus particulièrement ou une discipline?
Alors moi, je dirais plutôt un ensemble de disciplines. C'est vraiment tout le paralympique, et je dirais que l'effort que cette année France Télévisions va faire de vraiment tout diffuser, ça aide vraiment de pouvoir voir un petit peu tout ce qui se passe et de le promouvoir pour qu'après il y ait une suite et que ça se développe.
Eh bien voilà, on va laisser la flamme olympique poursuivre son périple sur le département de l'Allier avant de rejoindre Paris pour la cérémonie d'ouverture de ce JO. Merci beaucoup aux différents intervenants qui se sont succédés sur notre antenne. Merci Elias Petit pour la réalisation technique. Bon après-midi et bon week-end.